Eh bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués, c'est-à-dire la plupart d'entre vous. C'est toujours une joie d'être dans la région parisienne. Comme je disais tout à l'heure, c'est là que j'ai commencé mon ministère, il y a longtemps de cela. Mais c'était là aussi que je me suis converti. Je me suis converti au Butte-Chaumont. C'est une belle église, le Butte-Chaumont, hein, sur une pelouse. Et j'étais là, on m'avait confié le Nouveau Testament. C'était un copain qui, à l'époque, s'était tourné vers Dieu. Il m'avait donné le Nouveau Testament. Il m'a dit, si tu veux connaître Dieu, lis le Nouveau Testament. Je dis, bon, bah écoute, pourquoi pas, hein, on va essayer. Et en lisant le Nouveau Testament dans les Buttes-Chaumont, au mois de mai 1983, la présence de Jésus est littéralement tombée sur moi. Il y avait plein de monde autour de moi. Les gens se faisaient bronzer, faisaient beau, c'était un mois de mai agréable. Et moi, j'étais là avec mon Nouveau Testament et j'ai dit, Jésus, si tu existes, je veux te rencontrer, quoi. J'étais touché par l'évangile et franchement, la présence de Dieu est tombée sur moi au Butte-Chaumont. Voilà, donc je vous annonce qu'il y a une super église au Butte-Chaumont, sur une pelouse. C'est là que Dieu se révèle. Et Dieu se révèle à qui il veut, quand il veut. Donc il y a de l'espérance pour tout le monde. Moi, j'étais absolument pas de famille chrétienne. J'étais un musicien de rock. J'étais dans un peu la drogue et toutes ces choses-là dans les années 80. Et à 1000 kilomètres de me poser la question de l'existence de Dieu, de même savoir si un Dieu pouvait nous avoir créé, tout ça, je m'intéressais absolument pas. Donc il y a de l'espérance pour les Français. Les Français ne s'intéressent pas à Dieu, mais Dieu s'intéresse aux Français. Il y a de l'espérance pour tous nos amis, pour nos frères et sœurs, pour nos familles, pour tous ceux qui nous entourent. Et moi, je ne cesse de dire à Dieu, si tu m'as sauvé, tu peux en sauver des milliers autour de nous. Il n'y a aucune raison. Si tu es venu me chercher, si tu es venu m'appeler. Moi, j'étais d'une famille qui était dans une démarche politique, sociale, syndicale. Rien à voir avec l'évangile. Rien à voir. Bien que. Il y a des fondements parfois que l'on a dans nos familles qui viennent de l'évangile, mais on s'en rappelle plus. Hein. Puisque quand même la plupart de nos familles en France sont d'origine catholique, etc. Donc il y a des fondements quelque part, mais Dieu a la possibilité, la capacité d'ouvrir les yeux aux plus incrédules parmi nous. Voilà. Alors je commence comme ça juste pour vous dire, j'ai pas été moulé dans une famille chrétienne, j'ai pas été façonné dans l'église étant petit. Donc j'ai découvert la foi par révélation et après j'ai découvert l'église. Et quand on découvre l'église, on a souvent des étonnements, je sais pas pour vous. L'église c'est une longue histoire, je vais pas vous raconter 30 ans d'histoire d'église parce que c'est une longue histoire. Avec des choses passionnantes, avec des choses plus difficiles. Mais ce qui est important, et là j'entre quelque part dans mon message, c'est de réaliser que l'Église n'est pas l'objectif de Dieu sur la terre. L'Église, c'est l'instrument que Dieu utilise pour accomplir son projet. Mais l'Église n'est pas une fin en soi. Si on croit que l'Église, c'est tout ce que Dieu veut faire, on se trompe. Dieu a quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus grand, et il veut que son Église entre dans son projet. Jésus a parlé de l'Église, il a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est étonnant quand même. C'est la première fois que Jésus parle de l'Église et il parle de quelque chose qui n'existe pas encore. « Je bâtirai mon Église. » Là, on est en Israël, il y a juste le temple, les synagogues, l'église n'existe pas. Donc il utilise un mot à ce moment-là qui n'est pas dans le vocabulaire religieux de l'époque. Le vocabulaire religieux parle beaucoup plus de temple, de tabernacle, de maison de Dieu, et après de synagogue, bien sûr. Mais le mot église que Jésus utilise, c'est le mot ecclésia, que vous connaissez peut-être, ce mot provient du vocabulaire politique. Le mot « ecclésia », c'est l'assemblée de gouvernement des cités de l'époque. Les cités romaines, les cités grecques étaient gouvernées par un conseil municipal, si vous voulez. Un conseil municipal même élargi, puisque c'était les citoyens, ceux qui avaient le statut de citoyen. C'était bien sûr loin d'être la totalité de la population, mais quand même, ces citoyens se rassemblaient pour s'occuper des affaires de la cité. Et ces citoyens étaient l'assemblée de gouvernement de la ville. Eh bien, Jésus utilise ce mot « ecclésia », une assemblée de gouvernement. et il dit « Je bâtirai mon assemblée de gouvernement », hein, si on veut traduire dans la compréhension de l'époque, « et cette assemblée sera plus forte que les portes du séjour des morts. » Et c'est là où c'est très étonnant, c'est-à-dire que Jésus parle d'une assemblée et il la met directement dans un contexte de combat spirituel. Nous, si on devait définir l'Église, la première chose qui nous viendrait à l'esprit, je ne pense pas que ce soit le combat spirituel. Même si on est conscient qu'il y en a un, on va dire « je bâtirai mon assemblée, mon Église, et ce sera un lieu de prière et d'adoration ». En général, on dira ça. Ou là, on dira « je bâtirai mon assemblée, et elle sera un lieu de communion fraternelle ». C'est pour nous les priorités. Jésus place directement son Église dans un combat spirituel. Il la place dans une sphère qui est une sphère immatérielle, une sphère spirituelle, qui n'est pas de ce monde. Les portes du séjour des morts, ce n'est pas vraiment quelque chose dont on a l'habitude de parler. Et pourtant, Jésus voit l'Église dans ce contexte-là et il dit, c'est une assemblée de gouvernement, donc c'est un lieu d'autorité, bien sûr, une autorité spirituelle. Et cette autorité spirituelle, elle est appelée à l'exercer face aux portes du séjour des morts, c'est-à-dire face aux autorités spirituelles de ténèbres. Donc ça nous fait voir l'Église dans un contexte qui est totalement spirituel et au-delà de nos réalités, on va dire, purement quotidiennes, de réunions d'Église, etc. Ça n'enlève rien à l'importance de nos réunions, puisque nous sommes une assemblée, c'est-à-dire un lieu de réunion, un lieu d'assemblée, de rassemblement, mais nous le vivons dans un contexte de combat spirituel. Et pourquoi est-ce que je vous dis cela en introduction? C'est parce que le thème que j'ai abordé hier et que je vais continuer à aborder ce matin part de cette idée que le message central de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Dans les évangiles, Jésus utilise plus de 100 fois l'expression « royaume de Dieu » ou « royaume des cieux ». C'est-à-dire que c'est sa préoccupation centrale. Il est venu pour annoncer le royaume, pour enseigner les principes du royaume. Il est venu pour inaugurer le royaume, etc. Donc le royaume est partout dans les enseignements de Jésus. Et donc le royaume de Dieu, ça nous parle d'un règne dynamique de gouvernement de Dieu. Le mot « basiléa », comme je l'expliquais hier, c'est le mot « royaume » en grec, peut se traduire par « règne ». D'ailleurs, dans la prière du Notre Père, c'est la traduction qu'on a choisie, « que ton règne vienne ». Et la préoccupation de Jésus, pour nous, pour son Église, c'est que nous soyons les instruments pour que le règne de Dieu vienne sur la terre. Pour que le royaume de Dieu, qui est un royaume, bien sûr, universel et spirituel, et qui nous dépasse totalement, que ce royaume s'incarne dans la réalité des hommes. Donc l'Église a pour responsabilité de faire venir ce royaume. Alors bien évidemment, on attend la plénitude du royaume de Dieu lorsque Jésus reviendra. Et un jour, il viendra et il viendra pour régner avec son Église. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes sacrificateurs, nous sommes rois, en tout cas appelés au règne. Et un jour, nous serons véritablement dans une position royale au retour de Jésus. Mais ce que nous dit l'Évangile, ce que nous dit le Seigneur lui-même, c'est que ce règne a déjà commencé. Même si nous en attendons la plénitude, ce règne a déjà commencé. Lorsqu'il nous dit de prier que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il n'est pas en train de nous dire de prier pour son retour. Comme je le disais hier un peu avec humour, si pendant 2000 ans on prie et que rien n'arrive, qu'il faut attendre que Jésus revienne pour que les choses s'accomplissent, la prière est un peu frustrante. Donc, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite aujourd'hui et maintenant sur la terre, c'est beaucoup plus motivant. Et c'est bien sûr de cela dont il est question. Le règne commence, a commencé lorsque Jésus est venu. Le règne de Dieu, c'est-à-dire la dynamique de l'autorité de Dieu, commence à se manifester sur la terre. Dieu, qui n'a jamais perdu le pouvoir, vous inquiétez pas, est en train de redonner le pouvoir à l'homme. C'est l'homme qui a perdu l'autorité à cause du péché. Et il a redonné ce pouvoir à l'homme Christ, à Dieu fait homme, à celui qui est le nouvel Adam, celui qui est en train de ramener toute chose sous l'autorité du trône de Dieu, et c'est Jésus-Christ. Avant de partir, avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. » Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, homme. Dieu n'a jamais perdu son pouvoir, mais l'homme a retrouvé cette position d'autorité en Christ. Et c'est pour ça que Jésus ensuite envoie ses disciples, et il les envoie avec cette même autorité. Il les revêt de son autorité. Il leur dit, rien ne pourra vous nuire, vous pourrez marcher sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, parce que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et je vous confère, je vous délègue mon autorité. Et l'autorité spirituelle est déléguée à l'Église afin qu'elle fasse avancer le royaume de Dieu sur terre. Donc nous sommes tous dans cette histoire-là. L'Église, ce n'est pas juste des réunions, ce n'est pas juste des temps de prière, ce n'est pas juste de la communion fraternelle. L'Église, c'est un peuple qui est en action pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Ça nous donne tout un projet. Alors je vais non pas résumer tout ce que j'ai dit hier, parce que ça me ferait redire tout, mais là je vous ai introduit un peu dans les notions qu'on a vues hier plus en détail. Et je voudrais maintenant parler du monde dans lequel nous sommes et de la mission que nous avons à vivre dans ce monde. Donc l'autorité d'amener le royaume de Dieu, c'est bien sûr de l'amener dans ce monde qui nous entoure. Et je vous invite à prendre un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. On peut lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, un peu le texte cadre de ce que l'on verra ce matin. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc Jésus est là dans une prière, c'est la prière sacerdotale, il est en train de parler à son Père, de prier pour ses disciples. Et bien sûr, en priant pour ses disciples, il prie pour l'Église, il prie pour toutes ces 2000 ans d'histoire et au-delà. Et il pris par rapport à la relation que les disciples vont avoir à l'égard du monde. Et c'est quelque chose qui est central dans la pensée de Jésus, parce que le monde est pour lui le lieu de la mission. Dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, dans Matthieu 13, il nous est dit que le champ où Dieu travaille, c'est le monde. Et le champ où il envoie ses disciples, c'est le monde. Donc le monde est très important pour Dieu. C'est là où il est à l'œuvre. C'est là où il agit. Est-ce qu'on pourrait presque dire que Dieu agit plus dans le monde que dans l'Église? C'est un peu caricatural, mais c'est ça que ça veut dire. Parce que l'Église, ce n'est pas un lieu. L'Église, c'est un peuple. Donc si on veut que Dieu agisse dans l'Église, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que le lieu de l'action de Dieu, c'est le monde. Et l'Église est dans le monde. L'Église n'est pas dans l'Église. Vous comprenez ce que je veux dire? L'Église est un peuple. L'Église se situe dans le monde. Ici, nous sommes dans le monde. Vous allez me dire, mais non, on est dans l'Église. Mais non. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est un peuple. Nous ne sommes pas dans l'Église ici. Nous sommes dans le monde. Le monde, c'est le cosmos. Toute la création de Dieu. Toute la création de Dieu appartient à Dieu. L'univers entier, c'est le champ de Dieu. Et bien sûr, le diable a usurpé une autorité sur le monde à cause du péché. Le diable est venu investir ce cosmos avec son esprit de destruction, de mensonge, avec son action de ténèbres. Mais il n'en reste pas moins vrai que le monde a été créé par Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a confusion parfois dans notre compréhension du monde. Parce qu'il faut bien faire la différence entre le lieu géographique, entre guillemets, du monde, c'est-à-dire le monde créé par Dieu, et tout ce que Dieu a créé est bon. Donc il faut faire la différence entre ce monde créé par Dieu et l'esprit qui agit dans le monde aujourd'hui, et qui est un esprit mauvais. Et ça aussi, je l'expliquais hier, rapidement, il y a deux mots pour le mot monde qui nous permettent de bien différencier les deux choses. Il y a le mot cosmos d'un côté, en grec, c'est le monde créé par Dieu, et il y a le mot aion de l'autre côté, qui est plus souvent traduit par siècle présent. Le monde, le cosmos créé par Dieu, est pour l'instant dominé par l'esprit du siècle présent. Et quand il est parlé de la fin du monde dans la Bible, c'est la fin du siècle présent. Ce n'est pas la fin du cosmos. Le cosmos est dans la volonté de Dieu un lieu qui va continuer, qui sera renouvelé, qui sera transformé. Vous pouvez avoir toutes sortes de théologies par rapport au cosmos, mais le cosmos continue. Alors que le siècle présent s'arrêtera. La domination des ténèbres sur le monde s'arrêtera. Donc ça nous permet de bien différencier les deux choses. Le monde est bon. La création est un lieu béni par Dieu. Et nous devons concevoir ce lieu comme étant notre héritage. Je crois qu'on a trop eu une compréhension de la vie chrétienne désincarnée du monde. C'est-à-dire qu'on nous a dit, Dieu veut vous sauver et vous sortir de ce monde et vous emmener dans le paradis. Et du coup, on s'est dit, notre héritage, c'est le paradis. Ah, est-ce bien le paradis, notre héritage? Lorsqu'on a parlé tout à l'heure que nous régnerons avec Christ, nous ne régnerons pas avec Christ au ciel, nous régnerons avec Christ sur la terre. C'est-à-dire que s'il y a un lieu fantastique de gloire dans le monde spirituel, c'est un lieu provisoire pour nous. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas entrer dans la gloire, dans la présence de Dieu. C'est fantastique. Mais c'est juste provisoire. Ah bon? Eh oui. L'espérance chrétienne, c'est la résurrection des morts. La foi chrétienne est une foi incarnée. Nous croyons que nous mourrons avec Christ et que nous ressusciterons avec Christ. Et la résurrection, c'est un jour J. C'est un jour absolument fantastique où nous réintégrerons un corps de gloire pour la vie éternelle. Et nous ressusciterons pour vivre et régner avec Christ sur la terre. Une nouvelle terre, une terre renouvelée. Il y a plusieurs théories, peu importe. Mais ça se passera sur la terre. Et ça sera fantastique. Et ça sera un royaume de justice, de vérité, de grâce, comme jamais il n'y a eu sur cette terre. Et ça, c'est notre espérance. C'est fantastique d'être chrétien. On a une espérance pour notre terre, pour notre nation. Dans l'Apocalypse, lorsque Jean a cette vision fantastique de la Jérusalem céleste, il voit des arbres autour du fleuve de la vie, vous rappelez ? Et il dit que les feuilles de ces arbres servent à la guérison des nations. La guérison des nations, la restauration de toutes choses. Le retour de Jésus, c'est quelque chose qui a aussi une conséquence fantastique pour la création qui nous entoure. Donc lorsqu'on est dans cette notion du monde, on est là en disant « Je veux investir ma vie chrétienne pour que ce monde soit béni. Je ne veux pas fuir ce monde, je veux le bénir. » Il y a deux manières de concevoir notre vie dans le monde, et les deux sont bibliques. La première, c'est un exode à l'égard du monde, et la deuxième, c'est un exil. Je vais m'expliquer. C'est des mots qu'on connaît, ils sont bien bibliques. L'exode, l'exil. L'exode, c'est un départ. Il faut quitter ce monde. Et c'est bien sûr l'histoire d'Israël qui nous parle de l'exode d'Égypte. Israël était esclave en Égypte sous la domination d'un tyran, Pharaon, et Dieu va les délivrer de l'esclavage et les emmener dans un exode, c'est-à-dire qu'ils vont partir, ils vont quitter, ils vont être arrachés de la puissance des ténèbres et transportés dans le projet de Dieu, le pays de Canaan. Donc c'est un exode, et c'est un exode qui est essentiel dans notre vie à nous aussi. C'est-à-dire que le monde, avec son esprit de péché, de corruption et de convoitise, il nous faut nous en séparer, il faut le quitter. Il faut donc sortir du monde. Et comme dit Jésus dans ce texte qu'on a lu, vous n'êtes pas du monde. Les disciples ne sont pas du monde. On est né de Dieu, on est né d'en haut. Donc il faut qu'on sorte. Mais on ne peut pas en sortir géographiquement, vous avez remarqué. On y reste quand même, mais on en sort au niveau de l'esprit qui agit, au niveau des conceptions. On verra tout à l'heure plusieurs moyens de sortir et de vivre selon un autre esprit. Mais ça, c'est un exode. Mais quand on reprend l'histoire d'Israël, le but de l'exode, c'était d'aller jusqu'au pays de Canaan. Il y a un projet de Dieu, il y a un objectif. Il y a un héritage à conquérir. Le pays de Canaan était l'héritage, était la promesse de Dieu pour Israël. Mais trop souvent, et comme je disais tout à l'heure, on a cru peut-être que ce pays de Canaan, c'était le ciel. C'était la vie après la mort, c'était la vie éternelle. Mais si on étudie l'histoire d'Israël, que vous connaissez bien, dans le pays de Canaan, ce n'était pas encore le repos éternel. Il y avait quelques ennemis dans le pays de Canaan. C'était pas la gloire. C'était une promesse fantastique, c'était une bénédiction fantastique, mais il y avait des ennemis, il y avait des villes fortifiées, il fallait se bagarrer, quoi, pour conquérir le pays de Canaan. Donc c'est pas une image du ciel. Le ciel, heureusement, il n'y a plus de combat, quoi. Hein. C'est fini. On arrête de se battre là-haut. C'est la paix éternelle, c'est le repos éternel. Donc là, on est dans une promesse qui concerne encore la vie ici-bas. Le pays de Canaan, le Canaan des chrétiens, c'est aujourd'hui et maintenant. Ce n'est pas pour la vie après la mort. C'est maintenant que nous devons entrer dans le pays de Canaan. Et c'est important de le comprendre. Parce que si nous n'entrons pas dans le pays de Canaan, si nous croyons que c'est toujours pour après, alors qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans un lieu qui est entre l'Égypte et Canaan, qui s'appelle le désert. Qui s'appelle le désert. C'était le plan de Dieu qu'Israël passe par le désert, mais juste pour une période très limitée. Une période essentielle, c'est à ce moment-là que Israël est devenu un peuple organisé, c'est à ce moment-là qu'Israël a reçu la loi de Dieu, c'est à ce moment-là que la première alliance a été inaugurée, donc c'était un temps essentiel dans le désert. Mais un temps de préparation. On sort d'Égypte, on se défait du monde et on entre dans un temps de préparation. Un temps de préparation, de formation, sanctification, formation de disciples. On peut voir plusieurs choses dans ce temps de préparation. Un temps d'épreuve aussi, on apprend à se battre contre la tentation. Jésus s'est battu lui aussi contre la tentation au désert. Donc c'est un temps essentiel, c'est un temps de croissance spirituelle. Mais ce n'est pas le lieu dans lequel il faut rester. Si l'Église reste dans le désert, elle va tomber dans les travers du désert. Et on connaît les travers du désert. Il y a plein d'exemples dans l'histoire d'Israël. Et c'est des exemples à ne pas suivre. L'amertume, la rébellion, l'impatience, le désir de retourner en Égypte. Il y a toutes sortes de pièges dans le désert. Ce n'est pas le sujet, donc on ne va pas les étudier. Mais ce n'est pas un lieu tranquille. Donc plus on y reste longtemps, plus on risque de tomber dans tous ces travers. Et malheureusement, on le sait, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens sont dans des déserts spirituels. Je ne suis pas là pour parler dans le vide. On parle de concret, là. On parle de concret. Donc il va falloir entrer en Canaan. Il y a plusieurs manières d'entrer en Canaan, mais si on réalise que Canaan, c'est le monde qui nous entoure, alors ça change la donne. Comment est-ce que Canaan peut être le monde qui nous entoure? Et oui, si c'est là le champ de Dieu, si c'est là que Dieu a une conquête à accomplir pour nous, le monde devient intéressant. C'est plus quelque chose dont il faut se garder, c'est quelque chose qu'il faut conquérir. C'est complètement différent comme démarche et comme attitude. On continue à se garder du mal, mais le monde devient notre héritage, notre Canaan. Et le monde, c'est large. Le monde, c'est fantastique. Et c'est là où on arrive dans cette deuxième conception de la relation du chrétien au monde, c'est l'exil. Et pour ça, on va lire un texte qui se trouve dans Jérémie 29, que vous connaissez certainement. Versets 5 à 7. On se met dans le contexte. C'est une lettre que Jérémie écrit aux captifs qui sont à Babylone. Vous vous rappelez, Israël est tombé dans l'idolâtrie, Dieu a jugé Israël, il a envoyé un envahisseur, Nebuchadnezzar, qui est arrivé avec son armée, qui a envahi Israël, qui a pris Jérusalem, et ils ont fait captif le peuple, et ils les ont emmenés en exil à Babylone. Donc c'est un temps très difficile. Et les prophètes, à ce moment-là, essayent d'encourager Israël. Seulement, ils inventent des prophéties. Ça peut arriver. Et ils disent, vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Le Seigneur va vous délivrer tout de suite et vous ramener à Jérusalem. Et Jérémie, lui qui est le prophète de Dieu, il entend un autre message. Ça va durer 70 ans. 70 ans, c'est à la fois court et à la fois très long, hein. À l'échelle d'une vie, 70 ans, c'est pas mal quand même. Surtout si tu en as 50. Donc il écrit sa lettre, et c'est un des passages de la lettre qu'on va lire ensemble. La lettre aux exilés qui sont à Babylone, verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. On s'arrête là. Après, il leur dit, ne vous laissez pas tromper par les faux prophètes. Jérémie a beaucoup de courage pour écrire ça. Il y en a plus d'un qu'on aurait lapidé. Il est en train de leur dire, vous êtes captifs dans un lieu terrible. Parce que Babylone, il faut se mettre dans le contexte, c'est un lieu d'idolâtrie terrible. On adore les idoles, on organise toutes sortes d'orgies, c'est une ville terrible, Babylone. C'est comparable à Sodome et Gomorre. C'est une ville qui est très très loin de mettre en pratique la loi de Dieu. C'est le monde. Et le monde qui nous entoure s'éloigne de plus en plus de la loi de Dieu. Eh bien, Jérémie a un message d'encouragement à ceux qui sont captifs à Babylone. Il leur dit, investissez là. Achetez des maisons. Plantez des jardins. Mettez-vous chez vous. Faites de ce lieu votre résidence. Et non seulement ça, il leur dit, mariez vos enfants et que vos enfants aient des enfants. Donc, soyez vraiment impliqués pleinement à long terme dans ce lieu, comme si c'était chez vous, comme si c'était votre héritage sur plusieurs générations. Ils n'ont pas dû être contents du tout d'entendre ça. C'était le message de l'Éternel. Et pour enfoncer le clou, il leur dit, recherchez le bien de cette ville. C'est pas simplement créer votre petite communauté, une communauté complètement séparée, vous avez une espèce de ghetto communautaire. Non, il leur dit recherchez le bien de la ville. Travaillez à son bien, à sa bénédiction, à sa prospérité. Parce qu'en faisant cela, eh bien, vous pourrez vivre en paix, vous serez vous-même béni. Parce que votre bonheur dépend du sien. Donc il leur dit carrément, votre bénédiction dépend de la bénédiction de la ville païenne où vous êtes. Waouh, ça renverse un peu notre système de pensée. Hein. Ce message de Jérémie aux exilés de Babylone. Et si nous étions nous aussi des exilés ? Et je crois que nous le sommes, dans le sens fort du terme. C'est-à-dire que nous sommes ici dans un monde qui nous est contraire. On n'est pas chez nous à cause de l'esprit qui a envahi ce monde. Pour ceux qui lisent la Bible, Darby dira « Notre bourgeoisie est dans les cieux ». C'est Darby, ça. Et j'aime bien cette expression. Notre chez-nous, notre propriété, elle est dans les cieux. Nous sommes du ciel. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il est des cieux, il est descendu des cieux et nous, nous sommes nés d'en haut. Donc notre bourgeoisie, notre appartenance, notre identité, c'est dans le ciel. Mais nous sommes envoyés par Dieu dans le monde. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. C'est-à-dire, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les envoyer dans le monde en les gardant du malin. Donc, on est comme exilés dans ce monde. Et pourtant, Dieu nous dit exactement comme aux Juifs qui étaient exilés à Babylone, investissez dans ce monde. Faites de ce lieu votre héritage. Parce que vous allez peut-être y rester longtemps. Moi, quand je me suis converti, on m'a dit, t'inquiète pas, Jésus revient bientôt. C'est biblique. Ça fait 2000 ans qu'on nous le dit. Alors en plus, il y a des signes, il y a plein de choses qui nous disent que c'est vrai qu'il revient bientôt. Mais en fin de compte, ça peut être dans 150 ans, le bientôt, franchement. Dans 150 ans, je serai mort. Donc j'aurais vécu toute ma vie à attendre le bientôt qui n'arrive pas. Donc on vit dans l'attente du Seigneur, mais on vit dans le long terme ici. On est en train d'investir ici. On est en train de travailler pour le changement de notre société, afin que le royaume de Dieu avance. Alors vous allez me dire, mais le boulot est énorme. Mais le Seigneur ne nous a pas dit de faire tout le boulot, il nous a demandé de faire notre part du boulot. Là où nous nous trouvons, là où nous sommes, d'être ceux qui transformons la société. Il faut réélever le standard du rôle du chrétien dans la société. C'est pas juste de témoigner de Jésus, dans le sens de dire « Jésus est mort pour tes péchés, crois-le ». Bien sûr, il faut prêcher l'évangile. Mais c'est pas juste ça, le standard du chrétien dans la société. Être la lumière du monde, être le sel de la terre, ne nous parle pas de prêcher l'évangile. Ça nous parle de vivre une vie incarnée selon les valeurs, les principes du royaume de Dieu. Une vie qui brille par ses œuvres, par ses actions, par ses engagements, par son implication sociale, politique, économique, culturelle, agricole. On peut faire toute la liste de tous les domaines de ce monde. Rien n'est mauvais. Tout est pourri par l'esprit du monde, mais rien n'est mauvais en soi. Toutes ces choses, on les retrouvera dans le règne éternel. Il y aura une économie, il y aura une agriculture, il y aura une politique, un gouvernement, il y aura une justice. Vous voyez ce que je veux dire ? Toutes ces caractéristiques qui font la société des hommes sont des choses qui viennent du cœur de Dieu. On les a vues hier, je n'ai pas le temps de refaire le cours d'hier. Mais ces choses sont en Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. La société des hommes reflète ce qui est dans le ciel. Mais ça a été corrompu par le diable. Donc les chrétiens ont leur mot à dire, plus que leur mot. Ils ont un modèle à apporter. J'ai encore un petit peu de timing. Alors on va dans un dernier texte qui se trouve dans la première épître de Jean. Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a un paradoxe dans ce verset. Hein. N'aimez point le monde. Et Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez ce verset aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le monde, Seigneur? On l'aime, on ne l'aime pas? Dieu aime ce monde. C'est-à-dire, il aime sa création. Dieu a créé les êtres humains, mais Dieu a créé les fleurs aussi. Est-ce que Dieu aime que les êtres humains et pas les fleurs? Dieu aime les fleurs. Alors, il n'a pas donné Jésus pour le salut des fleurs, bien que il y a une dimension de rédemption pour le monde créé. Mais quand il est dit que Dieu a tant aimé le monde, bien sûr, ça parle avant tout des êtres humains créés à son image. Mais c'est au-delà, c'est le cadre qu'il a donné à l'homme pour son épanouissement, qui est aimé de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, à chaque fois qu'il a créé, il a dit « cela est bon ». Et arrivé à l'homme, il a dit « cela est très bon ». C'est encore mieux. C'est la cerise sur le gâteau. Mais tout le gâteau est bon. Donc quand il est parlé de « n'aimez pas le monde », ce n'est pas de ça dont il est question. Bien évidemment. Il faut aimer la création de Dieu, il faut aimer les animaux, sauf les moustiques. Il y a une conséquence de la chute hein, sur la création, il y a des corruptions qui sont là. Mais quand même, il faut aimer ce monde. Il faut aimer ce monde. Il faut aimer la création de Dieu. Les chrétiens sont des écolos, pas politiquement hein, parlant. Faites ce que vous voulez, politiquement parlant, mais écologie dans le sens noble du terme. C'est-à-dire ceux qui veulent préserver la création et lui permettre d'être épanoui dans ce qu'elle a été prévue, dans ce pourquoi elle a été prévue. Donc toute l'exploitation surabondante de la création, ce n'est pas juste. Et en plus, on rajoute des produits, pesticides et compagnie. Tout ça n'est pas juste. Bon, bref, c'est juste une parenthèse. Le monde est bon. Donc on revient à notre texte. N'aimez pas le monde, il n'est pas du tout en train de parler de ça. Il est en train de parler de l'esprit qui agit dans le monde, de la conception de vie, de la philosophie de vie qui est dans le monde. C'est quelque chose de spirituel avant d'être quelque chose de matériel. Du coup, quand il nous dit n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde, si on s'arrête là, on fait toute une liste de choses qu'il ne faut pas aimer. Il ne faut pas aimer la télé, il ne faut pas aimer le cinéma, il ne faut pas aimer le théâtre. On n'en est plus là, j'espère. Mais à une époque, les chrétiens avaient fait une liste de choses du monde dont il fallait se préserver. Et si on va dans le texte, il n'y a pas besoin de faire de liste. Il nous l'a fait lui-même, la liste, l'apôtre Jean. Il résume le monde dont il faut se garder en trois choses. On l'a lu ensemble. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà les choses du monde dont il faut se garder. Ça n'a rien de matériel, c'est pas de la création, c'est même pas des lieux, c'est même pas des activités, c'est un état d'esprit de péché dont il faut absolument se préserver. Et on peut le détailler un peu. Si on résume ces trois choses, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie, on tombe sur les trois grandes tentations. L'impureté sexuelle, l'amour de l'argent et la soif de pouvoir. Vous savez, c'est pas la Bible uniquement qui dit ça. Les gens dans le monde le disent. C'est les trois sujets, les trois occasions de chute les plus fortes dans la société où nous vivons. Même les hommes politiques le savent bien. Et d'ailleurs, ils tombent souvent dans les trois. Parce que plus on monte en autorité et en pouvoir, plus ces tentations sont fortes. Mais il ne faut pas montrer du doigt les hommes politiques. La chair est en chacun d'entre nous et ses convoitises sont en chacun d'entre nous. Donc l'apôtre Jean est en train de dire quelque chose de très profond qui résume l'esprit du monde dans toutes les sociétés et depuis des milliers d'années. Et c'est de cela dont il faut se garder. Et non seulement c'est de cela dont il faut se garder, Mais c'est contre cela qu'il va falloir se battre. Et on va le tourner en positif. Sinon, on va vivre un temps de repentance, et ce n'est pas le but de la matinée. On va voir comment combattre ces trois choses-là dans notre engagement et dans notre témoignage dans le monde. On commence par la convoitise des yeux. C'est l'amour de mammon, hein. C'est l'amour de l'argent et de tout ce qui va avec. On est dans une société de consommation qui n'est pas de Dieu, hein, et qui est basée sur le principe de la convoitise. Et c'est terrible. On s'en rend plus compte parce qu'on est né dedans et on a grandi dedans, mais c'est terrible. Et la société de consommation est en train de gagner le monde entier. Ça s'appelle la mondialisation. Je ne suis pas un anti-mondialisation ni un alter-mondialiste, mais il y a des dangers dans la mondialisation. C'est que, bien évidemment, le péché se mondialise. Un style de vie de péché se mondialise. Et le royaume de Dieu, lui aussi, est mondial. Donc on peut créer un style de vie chrétien qui se mondialise aussi. Donc la mondialisation est bonne dans ce sens-là pour nous, à cause de toutes les communications qu'il peut y avoir entre les chrétiens sur toute la terre. Cette mondialisation de l'économie est un piège. Tout ce qui commence à se centraliser est quelque chose qui va vers le règne de l'Antéchrist. Que ce soit dans le terme économique, soit en termes politiques, soit en termes sociologiques, dès qu'on rassemble tout le monde dans un même truc, avec une direction, un gouvernement unique, on est dans un système antéchrist. Donc là, comment est-ce qu'on va combattre contre l'amour de l'argent et contre le système économique du monde? Il y aurait beaucoup de choses à dire. En une phrase, je ne vais pas pouvoir vous le dire. Mais on va commencer là où on est. Dans notre gestion personnelle de nos finances et dans nos relations interpersonnelles au niveau de la solidarité. Et ça a été dit tout à l'heure. L'individualisme a gagné ce monde. Eh bien, il va falloir que dans l'Église, on crée quelque chose de différent. Et vous savez, il n'y a pas que l'Église qui travaille à la solidarité, à l'économie solidaire. C'est des choses qui existent aussi en dehors de l'Église. Mais c'est une démarche qui est juste. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire du profit pour nous-mêmes, on est là pour partager le profit. Le profit n'est pas quelque chose de mauvais en soi. L'économie doit générer du profit, mais le profit, selon le royaume de Dieu, est là pour être partagé. Je suis en train de faire la politique. Comment on fait la politique dans l'Église? Mais la Bible est remplie de principes politiques et économiques. On ne peut pas faire que du spirituel avec la Bible, sinon il faut en écrire une autre. Donc ça, c'est combattre l'esprit de maman, la convoitise des yeux. Je veux toujours plus pour moi. Je veux un beau frigo qui fait des glaçons. Tu as fait des glaçons hier avec ton frigo. Il y a tout maintenant. Hein. Et il faut que tout le monde ait tout. Et ceux qui n'ont rien, comment ils font? Ils empruntent. Et ils font des crédits. Et des crédits sur crédits. Et on tombe dans des situations terribles. L'Église doit inventer un nouveau style de vie qui touche l'économie, qui touche le partage, qui touche la solidarité entre nous et envers ceux qui sont pauvres. Vous vous rappelez la première Église? Ils ont mis tout en commun. On cite souvent cet exemple en disant « mais ils étaient fous » ou « c'était une période particulière de l'histoire de l'Église ». Sûrement que c'était une période particulière. Mais c'est quand même la première chose qu'ils ont faite après avoir été remplis du Saint-Esprit. Étonnant quand même. Ils sont remplis du Saint-Esprit, ils prêchent l'Évangile, ils guérissent les malades et ils mettent tout en commun. Nous, on remplit du Saint-Esprit, on prêche l'Évangile, on guérit les malades quand on y arrive et on ne met pas tout en commun. Pourquoi on s'arrête là? Je ne sais pas. Parce que ça coûte beaucoup. Parce que ça coûte beaucoup, c'est pour ça qu'on s'arrête. Et pourtant, il y a un projet de Dieu. Alors, je ne suis pas en train de prêcher la vie communautaire, je suis juste en train de dire, réfléchissons plus loin. Allons jusqu'à notre portefeuille. Allons jusqu'à notre style de vie, parce que ça implique des choses qui concernent notre style de vie. Moi, je fais beaucoup de covoiturage. Vous savez, covoiturage.com, là, blablacar. C'est fantastique, ce truc-là. Fantastique parce que tu dépenses moins d'argent, tu remplis ta voiture de gens qui te donnent de l'argent pour tes voyages. Ça coûte de plus en plus cher de voyager en voiture. Et en plus, tu peux parler de Jésus à tout le monde dans ta voiture, parce que c'est toi le maître. Tu conduis, c'est toi le chef, donc tu lances les conversations. Bon, moi, c'est facile, en plus, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Hop, c'est parti. Mais là, il y a une super idée. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait le site, ils sont en train de devenir milliardaires. Ça, c'est autre chose. Il y a du combat spirituel quand on parle de blablaca. Oula. Voilà. Bon, c'est juste des exemples, mais il y a plein de créativité à trouver en matière de solidarité et de partage. Il y a plein de choses à faire. On avance. L'autre point, c'est la convoitise de la chair. Société de plaisir, d'hédonisme. C'est mon plaisir avant celui des autres. C'est chercher à satisfaire toutes les convoitises, peu importe les limites morales. Ça, c'est le monde qui nous entoure. Comment on va faire dans l'Église pour aller contre ça? On va aller dans l'esprit opposé, qui s'appelle la pureté. Et c'est un sacré combat, on le sait bien. Dans nos vies personnelles, dans nos vies de couple, pour nos jeunes, pour nos ados, c'est un combat. C'est une guerre spirituelle. Et on n'est pas là pour se culpabiliser, on n'est pas là pour se condamner les uns les autres, on est là pour s'encourager et pour trouver un style de vie qui glorifie le Seigneur dans nos corps. Notre corps, le temple du Saint-Esprit. Il faut que l'Église ressaisisse cette vérité. C'est un témoignage fantastique. C'est pas mon corps qui me domine, c'est moi qui domine mon corps. C'est pas mon corps et c'est pas le monde qui me dicte ce que je dois faire avec mon corps, mais c'est le Seigneur. Mon corps est pour le Seigneur.
On a un chien qui me fait une sorte.
Regardez vos téléphones.
Il n'est pas mieux celui-là.
C'est bon là-haut ?
Un, deux, trois. Je prends ça, là. Alors. C'est la notion de la sanctification. Paul dira, achevez votre sanctification dans la crainte du Seigneur. Sanctification, on a dit tout à l'heure, André a introduit le temps de louange en parlant de la sainteté. Nous sommes saints. Oui, mais il faut achever notre sanctification. Nous avons été mis à part pour le Seigneur. Donc à cause de cela, nous sommes saints. Mais il faut que cette sainteté qui au départ est circonscrite à notre esprit, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes nés d'en haut, à l'intérieur, nous sommes saints à l'intérieur. Il faut que cette sainteté gagne tous les domaines de notre vie. Et c'est ça la sanctification. Domaine des pensées et domaine du corps, domaine de l'âme, domaine du corps. Encore un autre enseignement à donner. Mais l'Église doit se sanctifier pour être dans le monde différente que le monde. Mais travailler dans l'esprit contraire, c'est surtout ne pas juger les gens du monde. C'est tellement facile pour montrer du doigt, que l'Église montre du doigt le monde en disant « Oh, regardez le péché dans le monde ». Mais oui, le monde pêche, c'est normal. Ils ne savent pas faire autre chose. Par contre, quand l'Église pêche, ça, c'est pas normal. Donc, occupons-nous de notre sanctification et aimons les gens qui sont dans le monde en leur annonçant la grâce de Dieu. On peut toujours condamner l'homosexualité, le mariage homosexuel, tous ces trucs-là, j'ai rien contre. Mais à quoi ça sert? Marchons dans l'esprit opposé. Et l'esprit opposé, c'est l'esprit de pureté et de sainteté. Et c'est ça, ça nous concerne. C'est notre appel à nous. Je termine avec le troisième point, l'orgueil de la vie. Et là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous savez que l'orgueil, c'est la racine du péché. Tout a commencé comme cela. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas l'homme qui a commencé. C'est le diable. C'est pour ça que nous, on peut être sauvés, pas lui. Il n'y a pas de rédemption possible pour le diable. Il s'est enorgueilli devant la face de Dieu. Il sera jugé éternellement. Il ira en enfer. Mais l'orgueil, c'est la racine du péché. Ce qui veut dire que en chacun d'entre nous, la racine est là. Elle a été semée. Elle a corrompu nos vies. Elle est plus ou moins développée, mais elle est là quand même. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. L'orgueil de la vie dans le monde, c'est très fort. Ça va avec la soif de pouvoir, ça va être l'égoïsme et le désir d'être au-dessus des autres. Et c'est des choses, c'est un esprit qui agit dans le monde. Tous les gens du monde ne sont pas comme ça, heureusement. Il y a des gens très bien dans le monde. Mais l'esprit du monde est comme ça. C'est un esprit de domination de l'homme sur l'homme. C'est un esprit qui veut toujours être au-dessus des autres pour les écraser, pour les dominer, pour les humilier. Et là où l'esprit du monde agit fortement, les hommes sont dans un esclavage spirituel imposé par d'autres.
Et c'est particulièrement vrai, la domination du Nord sur le Sud.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il y en a plein d'autres, des dominations qui existent dans tous les domaines, notamment l'homme sur la femme. La domination de l'homme sur la femme est une malédiction de la chute. Il dominera sur toi, c'est une malédiction de la chute, et on la retrouve dans toutes les cultures. Bref, tout ça pour dire que travailler dans l'esprit opposé à l'orgueil de la vie, c'est bien sûr l'esprit de Christ, qui est un esprit d'humilité et de service. Que les chrétiens se revêtent d'humilité et de service dans le monde, ça, c'est le royaume de Dieu qui avance. Et il y a plein de choses à faire dans ce domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine associatif. Être au service de la ville, être au service du monde qui nous entoure, c'est quelque chose qui est de la responsabilité des chrétiens. Et être au service, ça ne veut pas dire renier nos positions d'autorité. Vous savez que la position d'autorité, bibliquement, est une position de service. Donc on peut aller très loin en autorité. Lorsqu'on est chrétien, on peut être élu et être maire d'une ville, peu importe. Du moment qu'on amène l'esprit opposé à l'orgueil et à la domination des hommes, c'est un esprit d'humilité, de service. Recherchez le bien de la ville où vous avez été déporté. Et c'est vraiment de cela dont il est question. Et ça commence dans l'Église. Dans l'Église, on manifeste une société alternative avec ce service les uns des autres, cette compréhension du leadership qui est un leadership de service. Et quand on met ça en pratique, on va vraiment dans un esprit opposé au monde, on est un témoignage fantastique pour le monde. On ne domine pas ceux qui nous sont donnés en partage, on ne domine pas le troupeau lorsqu'on est pasteur, mais on est au service de l'Église et au service les uns des autres. Soyez soumis les uns aux autres, c'est l'Esprit de Christ. Et ça, dans le monde, c'est de la bombe atomique. C'est l'Esprit de Christ. Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous dites bien, car je le suis. Si le Seigneur et le Maître a lavé les pieds de ses disciples, alors nous aussi, nous devons nous laver les pieds les uns aux autres. On peut terminer juste en priant ensemble. J'ai dit beaucoup de choses, je suis conscient que ça vous a peut-être surchargé d'informations. Mais on va prier pour que le Saint-Esprit mette la lumière sur ce qu'il veut vous dire, personnellement ou communautairement, et que vous repartiez avec la parole de Dieu. On peut se lever tous ensemble. Seigneur Jésus, tu es fantastique, tu as accompli une œuvre parfaite à la croix lorsque tu as donné ta vie pour nous, tu as donné ta vie pour le monde, et tu as emmené, Seigneur, dans ta mort toute la puissance des ténèbres, et tu l'as emmené dans ton cortège triomphal. Tu as dépouillé les dominations, les autorités, tu les as livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et nous proclamons ce matin la victoire de la croix de Christ et de sa résurrection. Proclamons que dans la résurrection de Jésus, il y a la naissance d'une nouvelle humanité, créée selon Dieu, dans la sainteté, dans la vérité. Nous proclamons que l'Église est ce peuple nouveau, est cette nouvelle humanité. Elle est les prémices de la résurrection. Et nous sommes aujourd'hui dans ce monde le peuple qui a la capacité de manifester le royaume de Dieu. Et Seigneur, nous voulons prier ensemble pour que tu nous conduises dans notre vie personnelle et communautaire à manifester ce royaume. Montre-nous les chemins, montre-nous les points que tu veux souligner, que tu veux éclairer, les choses qui nous concernent. Parmi tout ce qui a été donné ce matin, Seigneur, je prie que ton esprit puisse souligner certains principes, certains points. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont été interpellées dans un domaine ou dans un autre. Et je sens vraiment cet encouragement du Saint-Esprit à ne pas laisser tomber le point particulier qui vous a touché. Ne pas laisser vos pensées partir dans tous les sens, mais de prendre juste ce temps-là qui est devant nous, quelques minutes, pour laisser le Saint-Esprit mettre le doigt là où il veut nous parler. On a parlé de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. On a parlé de plusieurs choses, la solidarité, l'argent. Le Seigneur veut nous parler. Et sa parole n'est jamais une parole de condamnation. C'est toujours une parole de grâce. Même s'il peut y avoir de la correction dans ce que le Père nous dit, c'est toujours dans son amour qu'il nous parle. Et Seigneur, je prie vraiment pour que chacun entre dans sa destinée, que chacun retrouve une pleine assurance dans son identité en tant que chrétien dans le monde. C'est un combat spirituel. Plusieurs sont découragés par rapport à leur vie dans le monde, leur vie professionnelle peut-être ou familiale, à cause des combats, à cause des défis. Le Seigneur veut vraiment vous encourager ce matin. L'Église est un lieu d'encouragement pour aller. On est restauré, on est renouvelé, on est équipé pour aller et pour être fort ensemble dans notre envoi. C'est un envoi communautaire. On n'est pas tous isolés les uns des autres, mais on est ensemble dans un combat commun. Et il y a besoin d'encouragement mutuel, il y a besoin de soutien mutuel. C'est ça l'Église. C'est ça qui fait la force du témoignage. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Seigneur, je veux bénir cette communauté, cette assemblée, ici à Auberge-en-Ville, dans son témoignage, dans ce qu'elle apporte au niveau de ce quartier, au niveau de la ville et au-delà. Je prie pour qu'ils entrent pleinement dans tout ce que tu as préparé pour eux, qu'ils puissent être lumière du monde, celle de la terre, que chacun trouve sa place, que chacun s'y engage, non pas par devoir chrétien, mais avec une passion commune, avec une motivation, ensemble, d'être lumière et celle de la terre. Amen. Merci de m'avoir écouté.
J'ai scotché une femme, professeure d'université de sociologie à Nanterre, qui était furieuse parce qu'elle était dans un mariage catholique. Et elle dit « Ouais, j'en ai marre de ces textes qui disent « Femmes, soyez soumises à vos maris », sur professeur de sociologie. » Donc elle ne pouvait plus en démordre avec ça. Alors je dis, vous savez que un peu plus loin, c'est marqué « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église. » Ah, alors, je l'ai vraiment scotché parce que je n'attendais pas à cette réplique. Il dit, oui, il faut lire tout le texte. Hein. Femme, ok, soyez soumise, mais Marie, vous vous rendez compte? Si les maris, tous, et je m'adresse aux maris qui sont là, que je suis aussi, est-ce qu'on aime notre femme comme Christ a aimé l'Église? Vous savez, là, il y a de quoi aimer un mari s'il fait ça. Hein? On aimera encore plus qu'il ne faut. Donc, quelles sont les responsabilités, là? Hein? Et bien, la responsabilité, c'est que celui qui a écrit, celui qui a fait les versets, là, c'est un moine, je crois. Enfin, voilà. Il a eu tort de faire les versets comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Et puis en plus, ceux qui ont édité les Bibles, je ne sais pas la vôtre, il y a marqué entre le verset 21 et le verset 22, il y a marqué la famille chrétienne. Voilà. Donc du coup, on lit le verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais le verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Et en fait, il n'y avait pas de verset dans la Bible. La Bible, c'est une lettre. C'est la lettre aux Éphésiens. Donc c'est une lettre. Quand vous écrivez une lettre, vous mettez des versets? Non, vous écrivez une lettre. Voilà. Donc c'est artificiel, les versets. Donc le verset 21, qui fait partie de la même phrase que le verset 22, femmes, soyez soumises au mari, c'est quoi? Qu'est-ce qui est marqué? Quelqu'un qui le sait, là? Qu'est-ce qui est marqué le verset 21? Qui précède le verset femmes, soyez soumises chacun à votre mari comme au Seigneur. Qu'est-ce qui est marqué le verset 21? Alors je vous colle là. Hein. Pardon? Non, non, le verset 21, c'est-à-dire juste le mot, les mots qui précèdent ce verset-là. Ah, je suis en train de vous coacher aussi alors. Alors? Ah, c'est les jeunes qui le savent là. De ce côté-là que la réponse vient, il faudrait qu'elle vienne d'ici. Hein. C'est marqué soumettez-vous les uns aux autres. Oh! Est-ce que le mari doit soumettre sa femme? Ah, c'est une longue histoire, ça. Hein. La domination des maris, de l'homme sur la femme. Et c'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Les deux doivent se soumettre les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. La femme, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. C'est un exemple d'un principe général. Soumettez-vous les uns aux autres. Alors, je vous laisse avec ça, réfléchissez, mais lisez votre Bible, non pas en coupant les versets, mais en prenant la lettre dans son ensemble.